en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
En 2006, l'Académie des sciences morales et politiques a retenu le thème de la justice comme cadre de réflexion de ses séances hebdomadaires. Le 25 septembre 2006, elle invitait à s'exprimer le criminologue Alain Bauer sur le sujet du crime et de l'exécution des peines. Entrons dans la salle des séances et retrouvons l'intervenant sans plus tarder.
J'aurais pu intituler cette communication « Le crime, sa vie, son œuvre ». Mais le côté trivial et les côtés avisés de votre président ont retenu ma plume. Je voudrais donc m'en tenir, sans lourdeur inutile, j'espère, à la version officielle, mais en utilisant, comme au patinage artistique, une liaison si possible harmonieuse en figures imposées et programmes libres. Bref, entreprendre avec vous un parcours sur des terres curieusement peu explorées, en essayant d'éviter les chemins qui ne mènent nulle part. La science criminelle, qui vient du latin crimen, accusation ou grief, regroupe les troubles subis par les personnes. Selon le code pénal, elle permet de rassembler les délits les plus graves, dénommés crimes. Mais la confusion générale sur les questions d'insécurité, le trouble dans l'utilisation des termes, la mise en scène des questions criminelles pour des motifs politiques ou médiatiques, et la période s'y prête particulièrement, comme on a pu le constater, n'a jamais véritablement permis, particulièrement en France, de savoir véritablement de quoi l'on parle. Ainsi, si les enquêtes de victimation ou victimisation, un néologisme qui n'a pas encore eu droit de citer dans le dictionnaire, permettent de déterminer ce que les personnes subissent, y compris ce qui n'est pas de caractère pénal, la statistique policière ou judiciaire élimine structurellement une quantité considérable de faits. De plus, la peur de l'utilisation déformée de l'information en matière de criminalité a permis l'émergence d'une « love langue », une nouvelle langue permettant de ne jamais dénommer les choses, mais de leur inventer des substituts utilisés, soit pour minimiser les faits, un incendie volontaire qui est un crime devenant une dégradation de biens, ou de les instrumentaliser, une rixe devenant naturellement une émeute. Le détournement d'usage par synonyme lointain, et le français est une langue riche, est devenu un sport national de niveau olympique. Ainsi, la simple définition du terme à utiliser pour classifier l'ensemble des actes criminels est généralement délinquance, substitué à criminalité, et le reste est malheureusement à l'avenant. Le dispositif statistique national fait l'objet le plus souvent d'un très mauvais usage. Il a été le plus souvent utilisé depuis 1945, tout gouvernement et alternance confondus, pour ne pas dénommer la réalité, ni même la dénombrer, mais pour la mettre en scène annuellement lors d'une grande messe ministérielle permettant de jauger l'évolution sur l'année de certains faits. Or, le dispositif est partiel, il est parcellaire et il est même parfois partial. Il ne prend en compte que les crimes et les délits au sens pénal du terme, ni les contraventions, ni les incivilités. Il ne prend en compte que les crimes et délits constatés ou déclarés. Il est souvent l'objet de variations saisonnières ayant peu à voir avec la météorologie. Il masque la réalité et s'affirme, comme le disait un Premier ministre britannique particulièrement concerné puisqu'il était lui-même statisticien, la forme la plus élaborée du mensonge. Les chiffres des enquêtes nationales de victimation menées depuis que je préside le Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance confirment l'immense étendue de l'espace gris, 16,8 millions de troubles subis incluant une gigantesque part de violences domestiques et intrafamiliales où auteurs et victimes se connaissent et souvent vivent ensemble, de cette réalité masquée, sous-estimée, niée ou exacerbée suivant les interlocuteurs. Factuellement, on peut toutefois constater sur le long terme quelques évolutions marquantes. En 1950, on constate 574 000 crimes et délits, dont 58 000 actes de violence contre les personnes. En 1963, on est encore, après une pointe particulièrement douloureuse durant la guerre d'Algérie, à 567 000 crimes et délits pour toujours 58 000 actes de violence contre les personnes. Et curieusement, c'est en 1964, en pleine Trente Glorieuses, que la criminalité en France va prendre son essor, en dehors de toute crise économique ou sociale. La criminalité commence à évoluer fortement du fait des atteintes aux biens. La société de consommation s'installe, voitures, électroménagers et donc chèques sans provision. Les criminels, comme toujours, s'adaptent. Elle continue inexorablement à progresser pour atteindre en 1977 seulement la barre des 2 millions de crimes et délits, 90 000 atteintes aux personnes. Pour beaucoup de faits, l'augmentation très forte des délits liés à la circulation automobile et aux chèques sans provision, dénommés les contentieux de masse. La criminalité accélère ensuite sa progression. Près de 3 millions de crimes et délits en 1980 pour 108 000 atteintes aux personnes. Elle connaîtra ensuite une curieuse période de yo-yo, variant entre 3 et 4 millions de crimes et délits durant les 20 années suivantes, frisant les 3,9 millions de crimes et délits en 1994, avant de redescendre, puis de dépasser pour la première fois la barre des 4 millions de faits, 4 113 882 exactement, en 2001. Paradoxalement, les années 97-2001 sont les années de la reprise économique, de la baisse du chômage, de la baisse du chômage de longue durée, de la baisse du chômage des jeunes, de la baisse du chômage des vieux, de la baisse du chômage des femmes. Et donc, à nouveau, et en sens inverse, la relation entre l'économique, le social et le criminel, non seulement n'est pas démontrée, mais fonctionne selon une logique parfaitement inverse. Pour ce qui est des atteintes aux personnes, elles connaissent une explosion exponentielle avec près de 280 000 faits, auquel il faut ajouter la forte progression des vols avec violence, soit plus de 410 000 victimes pour une seule année, 10 fois plus qu'au début du dispositif statistique, alors que la criminalité, elle, n'a été multipliée, grosso modo, que par 4. Près d'un million sur 3 ans, près d'un million de victimes sur 3 ans, presque autant que durant toute la décennie précédente. Depuis 2002, il faut le reconnaître, la politique énergique menée par l'État a permis une décrue très sensible des faits enregistrés, et une très forte augmentation des violences subies. En 2005, 3 775 838 faits auront été déclarés ou révélés par les services. Face au flux, l'État décidera au début des années 70, plutôt que d'augmenter les moyens des services judiciaires, de créer des juridictions, des postes de greffiers, de magistrats, des dispositifs de prévention ou de suivi de la jeunesse délinquante, de décriminaliser, de dépénaliser, de contraventionnaliser les troubles. Plus tard, la chute vertigineuse du taux d'élucidation des services de police et de gendarmerie, qui passeront de 65% en 1965, c'est mnémotechnique, à moins de 25% dans les 30 années suivantes, conduira les parquets à de très nombreux classements sans suite, 82% en moyenne sur l'ensemble des faits connus, compte non tenu des faits subis non déclarés. Les banlieues qui s'embrasent durant l'été 81, les espaces de relégation, les faubourgs d'hier, font entendre la voix des nouveaux ghettos urbains. Regroupant dans ces grands ensembles des populations précarisées et oubliées par l'emploi comme par les dispositifs publics de proximité, les étés chauds ponctuent l'arrivée de la gauche au pouvoir et la politique de la ville naît dans la violence. Les violences urbaines à la française viennent d'apparaître. C'est le modèle français d'intégration qui semble en crise et il faut le reconnaître, la réflexion politique avec elle. Les réponses sociales sont marquées soit par un angélisme basé sur la victimisation sociale supposée des auteurs et sur l'excuse de leurs actes face à la brutalité de la désagrégation de la société dans des quartiers entre guillemets d'exil, ou face à cet intégrisme de l'explication sociale apparaît rapidement un autre, celui de la répression aveugle, nonobstant la nature du passage à l'acte ou l'histoire personnelle de l'auteur. La France est le pays des intégrismes de la thérapeutique sans aucun contenu en termes de diagnostic. Et donc la violence revient. Elle revient après 4 siècles de civilisation de la violence par la ville, car la ville est le lieu de la paix civile et pas de la violence. De 100 à 150 homicides pour 100 000 habitants au XVIe siècle, est-on passé à moins de 4. La tendance se retourne, prend parfois un cours exponentiel et continu. Ce seront les violences aux personnes non homicides et, on le verra tout à l'heure, non crapuleuses. Ainsi, les effets pervers de la sanctuarisation des domiciles et des véhicules, voulu par les assureurs pour des motifs légitimes, mais purement comptables, l'équilibre entre la prime et le dommage sur les biens, se font également sentir. Entre 2 sanctuaires, le domicile et la voiture, on est désormais vulnérable sur la voie publique. Et sur ce même espace, il faut le reconnaître, l'offre s'est diversifiée. Distributeurs de billets, téléphone portable. Pour attenter aux biens, il faut désormais s'en prendre aux personnes. La victime, qui n'était hier que témoin de l'acte, phénomène désagréable mais supportable psychiquement, devient acteur du délit et doit gérer un stress post-traumatique nouveau. Le sentiment d'insécurité, tel qu'on l'appelle, s'appuie malheureusement sur une réalité indiscutable, celle de la victimisation physique et subie d'un plus grand nombre de personnes. La criminalité française semble ainsi connaître une évolution identique à l'apparition du chômage. Le chômage était un concept. Il est devenu les chômeurs. Ceux-ci se sont rapprochés, ont pris un visage, une identité, sont entrés dans le cercle amical, puis familial, soi-même, et sont devenus la première préoccupation des Français. Le concept de délinquance a suivi le même chemin. C'est devenu les victimes. Ils se sont identifiés, rapprochés, leur visage est devenu plus familier et ils ont rejoint le précédent quand ils ne le devancent pas en termes de demandes sociales des citoyens. L'apparition des violences urbaines, concept moderne mais sans contenu légal ou pénal, nul ne les a jamais définis, semble définir une situation nouvelle et repose, pour ceux qui instrumentalisent les faits, sur une double erreur d'interprétation. Sémantique, car il n'y a pas de violence propre à la ville qui n'ait été expérimentée hors la ville. Temporelle, la ville n'est pas le lieu du crime, elle l'a pendant très longtemps, et encore un peu aujourd'hui, civilisée. Et sur une constatation contraire, la crise de la ville a provoqué l'apparition d'une violence pourtant particulière et en rupture avec le passé, mais qui ne connaît toujours aujourd'hui aucune incrimination pénale spécifique. Les premières violences urbaines modernes sont américaines. Dès 1886, on constate des heurts à Chicago, puis en Pennsylvanie, dans l'Idaho, le Massachusetts. Violences communautaires contre des immigrants irlandais, italiens ou asiatiques, violences ouvrières, tout particulièrement de 1917 à 1920, violences contre les Noirs, puis dans les quartiers noirs dans les années 60, violences intracommunautaires entre Noirs et Asiatiques au début des années 90 à Los Angeles. Mais ces violences s'appuient sur une société naturellement atomisée et communautarisée, où territoires et populations ethniques se conjuguent. La démographie et l'expansion des communautés s'appuyant sur leurs gangs respectifs pour déborder sur l'espace voisin. Les mêmes causes produisant les mêmes effets en Grande-Bretagne durant les années 80, notamment les fameuses émeutes de Brixton. L'apparition de violences urbaines d'un type particulier et spécifique, multiculturelles, à partir de bandes organisées en distinction d'origine ethnique, contre les services et les équipements publics, est paradoxalement un phénomène spécifique et purement français. La ville a donc civilisé le crime, notamment le crime violent. Elle est le lieu naturel de la police. L'univers merveilleux de l'Eldorado rural imaginé par les habitants des grandes cités n'a jamais existé. Le taux d'homicidité de cet espace merveilleux était 75 fois supérieur à celui que nous connaissons encore aujourd'hui. Mais les violences urbaines récentes, une vingtaine d'années en France, ne s'inscrivent plus dans cette continuité historique. Ni action révolutionnaire porteuse d'espoir, ni instrument de revendication clair. Les violences urbaines semblent essentiellement destructrices du cadre de vie de leurs auteurs et tout particulièrement des équipements publics. Paradoxalement, la crise de la ville en France et les violences urbaines sont un espace communautarisé où auteurs et victimes se ressemblent et sont interchangeables. Les pauvres ne tuent pas les riches ne tuent pas les pauvres. Les riches s'occupent des riches, les pauvres s'occupent des pauvres. C'est une société merveilleuse au sens marxiste du terme. C'est la crise de la ville, analysée par le rapport du comité présidé par Alain Perfit en 1977, qui a préfiguré l'apparition des violences urbaines. Et je tiens à le dire aujourd'hui, pour n'avoir pas toujours été un laudateur d'Alain Perfit, la relecture de son « Réponse à la violence » dans la version longue mériterait encore aujourd'hui d'être refaite et commentée, car cet ouvrage complet, ouvert, pluriel, est une très grande actualité pour tous ceux qui essayent de comprendre les épisodes récents, y compris ceux de novembre dernier. Comme partout, la ville en France est construite par l'apport de l'exode rural et la constitution de banlieues, la lieue du banc, autour des villes pour accueillir les arrivants. Mais de manière spécifique en France, le déracinement des populations habitant hors les enceintes fortifiées s'est doublé de l'expulsion progressive du centre des villes des fameuses classes laborieuses, classes dangereuses, selon la formule du regretté professeur Chevalier. Dans le même temps, l'explosion démographique et l'expansion géographique donnaient aux villes des dimensions sociales et spatiales inédites. De 1548 à 1781, un édit royal interdira même aux Parisiens, pour des raisons fiscales, d'émigrer dans les faubourgs, dispensés de l'octroi. On n'a jamais rien inventé, les zones franches urbaines avaient déjà 4 siècles. Dans les mêmes faubourgs se concentrent les industries polluantes et les populations dérangeantes. Le vagabondage se développe et devient même, pendant un temps, le premier des crimes réprimés en valeur quantitative, la fameuse pièce de 5 francs. Certes, le rapport arithmétique entre la taille des villes et la violence enregistrée par la statistique policière semble indiquer une relation forte. Mais les défauts du dispositif, qui ne prend en compte que les résidents recensés par rapport aux crimes enregistrés et oublie la population de passage, nuit fortement à cette démonstration. Ainsi, Paris, avec ses 2 millions d'habitants, apparaît avoir une criminalité relativement forte, environ 100 comme indice de criminalité. Mais il y a 5,5 millions de personnes à Paris au moment où je vous parle et environ 3 millions la nuit. Le taux de criminalité de Paris devrait être divisé par 2 en fonction de la réalité. Le taux de criminalité de la plupart des banlieues dortoirs devrait être multiplié par le même coefficient pour retrouver la différence. Et en fait, on se rend compte assez rapidement que l'ensemble du dispositif de calcul est défaillant, car ses bases ordonnées et abscisses sont fausses. En fait, la ville-centre attire la délinquance d'occasion, essentiellement contre les biens, mais c'est l'univers de la banlieue qui structure les violences. La reconstruction de la France d'après la Deuxième Guerre mondiale, l'accueil des populations quittant l'Afrique du Nord au moment de la colonisation, la paupérisation et l'exclusion sociale des populations ouvrières, l'apparition des bidonvilles aux portes des villes, la logique de construction très rapide, trop rapide, de grands ensembles pour loger les populations appelées en renfort des Trente Glorieuses, donneront à ces espaces périurbains une dimension qui créera les conditions de la crise à venir. On dénombrait 6 millions d'urbains en 1800 pour 25 millions de ruraux. Le rapport passera à 19 millions pour 22 en 1914, puis l'inverse, 22-19 en 1939, pour atteindre 41 millions d'urbains pour 13 millions de ruraux en 1980. En 1990, les villes-centres accueillaient 34 millions d'habitants, les espaces périurbains 9 millions, le rural 13 millions. Le recensement de 1999 montra une France urbaine composée de 35 millions, de près de 10 millions d'habitants du périurbain et de 13 millions de ruraux. Toutefois, en proportion, les pôles urbains régressent, 60% de l'ensemble au lieu de 62%, l'espace rural continue à régresser, alors que le périurbain passe de 12 à 16,5% de la population. Paradoxalement, c'est l'espace le moins policé, celui où il y a le moins de gendarmes, à la différence du rural, et le moins de policiers, à la différence des centres-villes, qui est l'espace qui progresse le plus. Bref, la France la plus concernée par les violences est celle où il y a de moins de policiers, et par ailleurs, le moins de services publics, car, et on pouvait le compter ainsi, au milieu des années 90, c'est la dernière fois qu'on a fait ce calcul, on comptait un bureau de poste pour 900 habitants en Lozère, et un pour 15 000 habitants en Seine-Saint-Denis. Les policiers eux-mêmes sont longtemps restés répartis, malgré de récents et salutaires efforts du ministère, selon la grille géographique des années 50, aggravée par un mouvement centrifuge de concentration pour des motifs de maintien de l'ordre public dans le centre des villes, un policier pour 100 habitants à Paris, un pour 300 dans la petite couronne, un pour 800 dans la grande banlieue, un pour 2000 dans les zones les moins couvertes par les services. C'est donc la création de cet espace de relégation et de ségrégation des populations politiquement ciblées qui crée les conditions d'une vie urbaine hors du centre et qui se traduit par ce qui semble devenir un phénomène de quasi-sécession. À la différence des États-Unis ou de la Grande-Bretagne ou de l'Europe centrale, les violences urbaines françaises sont rarement communautaires ou ethniques. Le système d'intégration nationale, loin d'échouer, semble paradoxalement fonctionner trop bien. Les bandes sont multiculturelles le plus souvent et les affrontements se font quartier contre quartier sans grande distinction d'origine des populations, même si les politiques ethniques d'attribution des logements commencent peu à peu à modifier cette donnée. De plus, le système d'intégration française semble totalement sexué. Face au succès des filles d'origine maghrébine ou gitane, à la fois en termes scolaires et en termes d'intégration dans le travail, c'est l'échec des garçons qui est l'élément majeur du dispositif. C'est donc pas la politique d'intégration qui est défaillante, c'est une partie de cette politique face à une partie de cette population. Longtemps contrôlée par les organisations liées à la classe ouvrière, en français courant au Parti communiste, la lente agonie des structures de contrôle social, politiques ou syndicales, la difficulté pour les associations de prendre le relais, le déni de la réalité par certains pouvoirs publics et, il faut le reconnaître, quelques intellectuels, ont contribué à une certaine perte de repères et au délitement des formes d'expression collective organisées sur la base de revendications sociales. C'est le commissaire de police affecté aux renseignements généraux Lucien Buitruong qui cumule 3 handicaps majeurs. C'est une femme, elle est agrégée de philosophie et elle est commissaire de police, ce qui ne lui a pas facilité la vie, qui donnera en 1991 au phénomène apparu 10 ans plus tôt dans le quartier des Minguettes, durant ce qu'on appellera génériquement l'été chaud, la dénomination violence urbaine. Ces événements provoqueront la création d'une politique de la ville qui, sous des dénominations diverses, traversera les alternances politiques. De 80 à 90, la crise semblera contenue avant de reprendre un rythme quasi exponentiel à partir de 91 jusqu'à l'épisode de novembre 2005. Ainsi, sur la base d'indications statistiques reformulées et qu'il faut prendre avec une immense prudence, les violences anti-institutionnelles passeront de 3 000 faits en 93 à près de 30 000 en l'an 2000 et la mise en place d'un nouveau dispositif, le système d'analyse informatisée des violences urbaines, qu'on appelle en acronyme le CEVU, et que d'aucuns à Place Beauvau appellent le CEVU, c'est pas pris, la blague n'est pas de moi, je n'en retire aucune satisfaction, mais je la trouve excellente, ont permis de constater que le nombre de faits sur une base scientifiquement plus stable que le système de l'échelle Buitruong était passé à près de 50 000 faits alors qu'on en attendait moitié moins, et que l'indication du nombre de quartiers touchés, 1 millier en l'an 2000 pour moins de 500 en 1993, marquait une évolution extrêmement importante de la surface et de l'espace concerné, quand bien même un certain nombre des quartiers de 1993 avaient disparu du recensement de l'année 2000. Selon le CEVU, 53% des auteurs de violences urbaines étaient des mineurs, 20% seulement pour la criminalité naturelle française, 30% avaient moins de 16 ans. Paradoxalement, le cas de la Seine-Saint-Denis ne relève pas uniquement du débat de la Seine-Saint-Denis, mais de l'ensemble du pays. En matière de gendarmerie, 800 faits seulement de violences urbaines étaient enregistrés en 1997, plus de 7000 en 2000, près du double, 14000 en 2001. Voyez à quel point le rythme accélère, encore qu'en matière statistique, dès qu'on s'occupe d'un sujet, il y a un phénomène de révélation qui n'est pas systématiquement un phénomène d'inflation et qu'on ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'on a découvert qui existait avant par rapport à ce qui augmente naturellement. Alors évidemment, on a une pulsion naturelle pour considérer que nous sommes face à une logique d'anarchie. Il n'en est rien. Contrairement à la vision médiatique, et souvent très médiatisée, des événements, les auteurs des désordres et des troubles ne semblent pas cultiver une logique du désordre contre l'ordre, mais concurrencent les institutions républicaines en voulant installer un autre ordre. La violence est fondée sur un ordre parallèle, financé par une économie souterraine, en général basée sur le trafic des stupéfiants. Il y a conflit entre l'ordre républicain et un autre ordre, c'est le contrôle du marché, le plus souvent de la drogue, qui génère le plus souvent des conflits entre bandes. Et d'ailleurs, en la matière, les quartiers les plus tranquilles ne sont pas systématiquement les plus sûrs, car l'intérêt général de ce qu'on appelle le business, c'est justement que la police ne soit pas interpellée trop souvent pour venir perturber le fonctionnement de cette économie parallèle. La criminalité dans les quartiers évoluant, la situation est désormais hybride. Trafic de stupéfiants et vol à main armée, mais aussi rackets et prostitution, mais également hybridation par l'aide aux rébellions en Algérie ou dans l'ex-Yougoslavie ou en Tchétchénie. On peut rapidement devenir non seulement un délinquant, mais aussi se draper dans son statut de militant d'une cause, ce qui permet de brûler 25 voitures plus une synagogue ou une mosquée, c'est au choix, pour justifier les épisodes précédents. Les organisations religieuses intégristes ou radicales, le plus souvent liées à des formes radicales de l'islam, mais pas seulement, pouvant également intervenir dans le contrôle social des territoires. La violence est donc l'élément structurant des groupes organisés et les conflits entre bandes se traduisent par une très rapide augmentation des homicides, 10 en 1991, 61 en 1998, 386 en 10 ans, à tel point qu'aujourd'hui on vit une période assez étonnante où le nombre des morts par confrontation avec les services de police, qu'il s'agisse d'une fuite qui est mal tournée ou de ce qu'on croit appeler une bavure, la mort d'un homme ou d'une femme n'étant pas une tache sur un buvard, on appellera ça une faute ou un crime, est en baisse constante au cours des 20 dernières années, alors que les morts par règlement de compte entre les bandes est en augmentation tout aussi constante, les derniers chiffres des années précédentes étant entre 5 à 8 pour les victimes des forces de l'ordre directes ou indirectes, et entre 30 et 40 pour les victimes de règlement de compte. Or, si la République a supprimé à juste titre la peine de mort sur l'ensemble du territoire et si elle condamne les bavures ou les crimes de ses services de police, les bandes, elles, l'ont rétabli dans une indifférence relativement générale, alors même que le niveau de criminalité constaté est 8 fois supérieur à ce qui est légitimement reproché aux forces de police. Les modes d'expression changent également de nature. L'incendie volontaire de poubelles ou de véhicules devenant de plus en plus fréquent. De même, l'affrontement avec les forces de police se transforme en guet-apens organisé, touchant l'intégralité des services publics, pompiers, agents des postes, transports publics, médecins, postiers, etc. L'apparition, encore réduite, mais réelle, d'armes de guerre bon marché en provenance des Balkans ou du Maghreb a également démocratisé l'accès à des équipements hier encore réservés à la criminalité organisée, qui en usait avec parcimonie et qui continue à maîtriser l'usage de ces armes. Vous noterez qu'en novembre dernier, il n'y a eu qu'un seul coup de feu contre des forces de police et encore d'une banale 22 longs rifles. Car si les forces criminelles structurent les quartiers, elles en contrôlent aussi les débordements. C'est ainsi que la limite qui était la mort d'un agent de police n'a pas été dépassée, car les forces criminelles savent très bien que la réponse dans un État aussi puissamment centralisé que la France serait insupportable. C'est d'ailleurs pour cela aussi que nous n'avons jamais eu de mafia nationale, mais simplement quelques importations diverses, et surtout, pour ce qui est de la Côte d'Azur, du blanchiment heureux pour l'économie locale, moins pour l'idée qu'on se fait du système judiciaire, de l'argent gagné par ailleurs. La violence entre également dans les établissements scolaires, le collège étant l'épicentre des violences entre élèves, puis contre les enseignants et les personnels de surveillance, car l'idée qu'on se fait du sanctuaire scolaire, qui n'a jamais existé, car celui qu'on imagine dans nos rêves les plus fous, dans nos utopies, était un système scolaire avec 6 millions d'élèves dans le primaire et 150 000 dans le secondaire. Nous avons aujourd'hui 6 millions d'élèves dans le primaire et 6 millions dans le secondaire, et sur l'ensemble de nos établissements, 90% d'entre eux accueillent des élèves du primaire, et 10% des établissements accueillent autant d'élèves que 90% des autres établissements. Nous avons construit nos collèges et nos lycées comme nous avons construit nos HLM, et bien évidemment, ceci provoque des événements particuliers, d'autant qu'on doit y gérer aussi la transhumance scolaire. On n'est plus dans un établissement proche, mais dans un établissement lointain. La gestion, évidemment, des intercours, car l'enseignement ne dure plus linéairement toute la journée, et bien évidemment la reconstruction de l'espace géographique, de l'endroit d'où on vient, dans la cour de récréation, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Les collèges et les lycées ont donc enregistré environ 40 000 incidents par trimestre, dont 6 000 graves, mais il faut le souligner, 86% des auteurs et 80% des victimes sont les élèves eux-mêmes. Là aussi, la communautarisation a révélé sa réalité. Auteurs et victimes se ressemblent, ils vivent ensemble, ils proviennent en général des mêmes quartiers. Naturellement, les transports publics ont été la cible à la fois d'opérations d'occupation illicite, de fraude ou d'agression. Et là aussi, une partie de ces phénomènes sont liées à des décisions de politique qui ont été menées, augmentation de la taille des bus, réduction du personnel d'accompagnement et de contrôle, obligation pour le conducteur d'être en même temps receveur et contrôleur, ou installation des dispositifs de compostage derrière le conducteur à un endroit où il ne peut en rien maîtriser le bus ni son accès. Tout ceci crée les conditions de la confrontation ou du conflit, mais comme toujours, plutôt que de prévenir ou d'analyser les phénomènes, on a préféré les subir, et nous sommes aujourd'hui dans cette deuxième phase qui est l'analyse, le diagnostic du mal qui s'appelle dans notre pays la violence. Le rajeunissement enfin des auteurs d'actes de délinquance, la poussée du nombre de mineurs mis en cause de plus en plus jeunes pour des faits de plus en plus graves, et avec, je tiens à le signaler, une rapide augmentation de la féminisation mises en cause, car en la matière, la parité n'a pas attendu la loi pour s'exprimer, et il arrive souvent que des bandes de garçons aient peur des bandes de filles. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter. En tout état de cause, c'est devenu un événement. Aujourd'hui, il y a deux fois plus de filles mises en cause dans les moins de 12 ans que dans les plus de 12 ans, et donc nous sommes face à la vague de la féminisation qui va passer de moins de 10% de femmes ou de jeunes filles mises en cause à 15 à 20%, ce qui est encore loin de leur part dans la population générale, mais beaucoup plus qu'elles n'ont jamais été dans l'histoire moderne de ce pays. Enfin, il y a eu un événement qui nécessite qu'on s'arrête quelques instants sur la nature des violences urbaines à la française. Dans les années 80, la plupart des experts et des sociologues expliquaient que les violences urbaines à la française étaient des violences révolutionnaires. Elles exprimaient le mal-vivre des quartiers contre la manière dont ils avaient été traités. Et je tiens à le dire, paradoxalement, aussi curieux que ça puisse paraître, ils avaient parfaitement raison. Dans les 3 à 7 000 faits de violences urbaines des années 90, environ 50 à 70% étaient dirigés contre des institutions. Et donc, on visait ceux qui portaient l'uniforme ou ceux qui étaient représentatifs d'un service public sous une forme ou sous une autre. On en pense ce qu'on en veut, mais en tout état de cause, la cible était clairement identifiée. Dans les années 2000 à 2005, aujourd'hui nous sommes à environ 50, 60, 70 000 faits de violences urbaines, 80% des victimes sont des personnes physiques lambda. Ce qui amène deux constatations. D'abord, un changement. Ce qui était vrai au début des années 80 ne l'est plus aujourd'hui, car les violences urbaines traditionnelles sont devenues de bêtes, simplement, violences criminelles. Elles n'ont plus le caractère social ou le caractère révolutionnaire qu'on voulait leur donner. Ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu, car il reste toujours environ 20 à 30% de violences anti-institutionnelles, c'est-à-dire plus qu'il y a 10 ans, mais noyées par des violences purement criminelles. Chacun a voulu voir uniquement le petit morceau qui le concernait. Les uns ont voulu voir les 30% parce que ça faisait beaucoup, les autres n'ont voulu voir que les 70%. Il y a deux types de violences urbaines, des violences revendicatives, qui sont dans la nature de l'histoire de ce pays, des violences révolutionnaires légitimes, et des violences non revendicatives qui n'ont pour but que d'affirmer un pouvoir personnel, criminel, de marquer son territoire et qui ont submergé les autres. En fait, on a oublié, en matière criminelle dans ce pays, ce qu'était la nature de base du diagnostic initial qui est quelle est la raison du passage à l'acte. Or, pour faire simple et caricatural, il y en a trois. Le besoin, l'envie, le plaisir. Le besoin, je vole du pain pour vivre. Jean Valjean, J'exerce une violence contre une violence plus grande encore. C'est la violence du progrès, celle qui nous a permis de passer du statut de sujet à celui de citoyen. C'est la violence de l'histoire, celle qui a changé nos modes d'organisation sociale, qui a imposé des structures politiques différentes de celles qui existaient. Et donc, c'est une violence que nous légitimons par l'aspiration naturelle à plus de démocratie, à la souveraineté nationale, etc., etc. L'envie. Je n'ai qu'un vélo et je voudrais une voiture. Des services publics sont trop chers. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'arrêt de bus au milieu de ma cité qui fait 2,8 km et sur lesquels il y a un arrêt de chaque côté, mais pas au milieu. Disons qu'il y a des circonstances aggravantes et atténuantes. Il faut étudier la question. On peut regarder avec intérêt s'il s'agit simplement d'une volonté d'être comme les autres ou s'il s'agit simplement de répondre à un vrai problème qui est que le service public n'assume pas sa mission. Le plaisir. Je viole et je tue car je suis soumis à une pulsion irrésistible. Je ne suis pas un militant de la Révolution. Je ne demande pas la carte du parti avant de violer. Je le fais parce que c'est irrésistible. Et en la matière, je ne peux pas être considéré comme dans les cas précédents. Or, pour des raisons idéologiques, entre les tenants de l'excuse absolutoire, il n'y a pas de victime, il n'y a pas d'auteur, il n'y a que des victimes, et les tenants de la répression aveugle, il n'y a que des auteurs, il n'y a jamais de victimes, tout le monde a oublié qu'on devait passer du prêt-à-porter au sur-mesure dans l'analyse des phénomènes criminels. Et c'est très exactement ce qui nous pose problème aujourd'hui, car nous ne nous sommes pas rendus compte que nous essayons de régler trois maladies avec un seul médicament. Ça arrive rarement, et quand ça marche en général, c'est parce que c'est un placebo. Je voudrais enfin souligner ici l'immense mystère des violences intrafamiliales, dont nous ne savons grosso modo pas grand-chose, et qui, si nous étudions la question d'une manière plus intelligente, nous amènerait à doubler, voire peut-être même tripler, le nombre de crimes et délits que nous connaissons, car en la matière, le taux de personnes victimes, femmes, mineures, immigrées, d'un acte de violence au quotidien avec quelqu'un qui vit avec soi, au même endroit, est tellement considérable que le différentiel entre ce qui est subi et ce qu'on sait est grosso modo de 4 millions de faits subis pour 58 000 plaintes. Et en la matière, il faut le souligner, tous les efforts qui seront faits par les services publics pour mieux accueillir, mieux traiter les femmes battues ou les enfants battus provoqueront une augmentation massive des faits enregistrés, car en la matière, la statistique n'est pas un ennemi de l'action publique, c'est un allié. Mais encore faut-il sortir de la logique du chiffre magique qui voudrait tout dire et de cette espèce de logique merveilleuse qui fait qu'on analyse les chiffres de la concurrence, ceux du crime, et pas les chiffres de la production policière, c'est-à-dire sa productivité. Et une partie de notre problème est qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on n'arrive pas à analyser ceci clairement. Alors en matière familiale, une partie des problèmes qui sont posés, c'est d'abord la contraction de la cellule familiale, exclusion des grands-parents, travail des deux parents, apparition de près de 2 millions de foyers monoparentaux, ce qui a provoqué une forte réduction du contrôle social des mineurs et l'apparition de ce qu'on appelle les orphelins de 16h30, laissés eux-mêmes entre l'école, le collège et la maison. Je tiens à le dire, même si je suis un tenant de l'a priori que je viens d'énumérer, les études récentes qui ont été menées ont largement contribué à minimiser cette hypothèse, pointant plutôt vers la situation plus complexe de familles dont les deux parents travaillent, confiant à la fédulogie télévisée ou à des substituts rémunérés mais divers, le soin d'éduquer leurs enfants. Contrairement à ce que nous pensions, les foyers monoparentaux ne sont pas surproducteurs de jeunes gens mis en cause dans des affaires de délinquance, de dégradation ou d'opérations criminelles. Bien au contraire, ce sont plutôt les foyers normaux, composés de deux parents, je n'entrerai pas ici sur le sujet de savoir de quel sexe, mais qui travaillent et qui donc n'ont pas la possibilité d'être présents dans la cellule familiale. Par ailleurs, et il faut le noter, la progression du taux d'absentéisme scolaire semblerait en partie expliquer la place de la violence des mineurs sur la voie publique, le système scolaire semblant s'accoutumer au fait que les fauteurs de troubles soient désormais à l'extérieur. Alors, il faut reconnaître que c'est plutôt légitime. D'abord, les enseignants ont toujours eu un problème majeur à noter les absences, car ils connaissent les faits mécanique voulue par la République il y a près d'un siècle, pour ceux qui l'auraient oublié, qui est que les allocations familiales sont versées en contrepartie de la présence dans un établissement scolaire et qu'à partir de 4 journées et demie d'absence, on est censé ne plus les percevoir. Évidemment, personne ne faisait plus de décompte des journées d'absence et donc personne ne s'occupait du sujet. Deuxièmement, les enseignants ne sont pas masochistes. Quand les emmerdeurs sont dehors, ils ne font pas grève pour les avoir dedans. et on peut les comprendre. Du coup, personne ne voulait voir ce qu'était l'état de l'absentéisme scolaire. Or, sur une enquête menée par le ministère de l'Éducation nationale, où à peu près la moitié des établissements dans la moitié des académies répondaient, et donc a priori pas les pires, on avait grosso modo un absentéisme de 5 à 8% de la population scolaire. 5 à 8% de la population scolaire, ça fait 1 300 000 élèves. Alors, il y a ceux qui sont malades, ceux qui sont avec leurs parents, ceux qui sont dans des... Puis il y a ceux dont on ne sait pas où ils sont. Ce qui est suffisamment pour créer les conditions d'un trouble important. Alors, il est vrai que certains membres du gouvernement, j'en vois ici, ont fait en sorte que des enquêtes soient faites qui ont ramené le taux d'invisibilité de l'absentéisme scolaire à un niveau plus visible, pas moindre, mais en tout cas mieux à même d'être perçu. Ce qui a amené à confirmer ce qu'on savait déjà, c'est que chaque jour, environ 1 million d'élèves sont dans la nature, ce qui pose toute une série de problèmes, car s'ils sont dans la nature pour l'école, on les retrouve assez souvent dans les fourgons de la police, ce qui poserait quelques problèmes. Et pour rappeler la version de Victor Hugo sur la question, quand on ouvre des écoles, on ferme des prisons, eh bien peut-être qu'en ouvrant d'autres écoles, on pourrait fermer des cellules de garde à vue, ce qui serait plus légitime pour la gestion du problème des mineurs délinquants, mais ceci est une autre histoire. Alors, il ne faut pas oublier le sujet le plus sensible, le plus compliqué, le plus difficile, le plus moins bien vu par la gauche caviar et la droite saumon réunis en l'occasion, c'est la dimension ethnographique. Alors, vous m'excuserez, j'ai l'habitude, parce que je dirige un organisme public qui est là pour dire la vérité, c'est suffisamment rare pour être souligné, et en plus avec le soutien de la plupart des membres du gouvernement pour une fois d'accord sur un sujet transitant entre la patate chaude de la gauche vers une patate chaude de la droite en attendant d'éventuelles prochaines alternances. La réalité, c'est qu'il y a une dimension ethnographique de la délinquance, qui vaudrait être totalement aveugle ou totalement stupide pour ne pas s'en rendre compte. Mais il y a deux niveaux à cette dimension. Premièrement, il y a la dimension des étrangers, et ensuite il y a la dimension des immigrés. La dimension des étrangers est assez simple. Nous avons publié il y a quelques semaines une étude sur la criminalité des étrangers. Alors, c'est facile à voir parce que les étrangers, c'est compté en France. Il y a les nationaux et les autres. Alors, la criminalité des étrangers, elle est supérieure à leur part dans la population officielle de la France, nettement. Elle est tout juste égale à leur part dans la population de la France quand on prend en compte les clandestins estimés par rapport aux officiels. Et elle est légèrement en dessous quand on enlève des étrangers mis en prison, la part qui perturbe un peu le calcul, qui est celle d'atteinte à la police des étrangers. Car seuls des étrangers peuvent être mis en prison pour atteinte à la police des étrangers, ce qui fait qu'on a un peu de mal à les comparer avec la criminalité des nationaux, qui, eux, ne peuvent pas l'être. Et donc, quand on calcule ça, on se rend compte que la criminalité des étrangers est inférieure à leur part réelle dans la population, et que, deuxièmement, plus le fait est grave, moins il y a d'étrangers. Grosso modo, les étrangers sont auteurs d'une criminalité de subsistance, de bagarre entre étrangers, car dans la criminalité, une partie ne comporte que des contentieux entre eux, entre étrangers, entre passeurs, etc. Et alors, quasiment insignifiante, plus le niveau de criminalité est important. Donc, il faut dire ça au moins une bonne fois pour toutes, il n'y a pas de surcriminalité des étrangers en France. Celle-là est calculable, elle a été calculée, cette question est structurellement réglée, on verra l'évolution dans les années prochaine, mais là, la cause est entendue. Pour ce qui est de la criminalité des immigrés, alors, il y a deux manières de le savoir. La première, c'est l'inventer. Donc, vous prenez n'importe quel leader d'une organisation extrémiste quelconque, il va vous expliquer que la France est à feu et à sang. Et puis, la deuxième, c'est de l'étudier. Eh bien, paradoxalement, c'est un sujet assez intéressant où nous n'avons pas d'outils statistiques. Donc, nous en sommes réduits à des expédients. Expédient numéro 1, les noms et les prénoms des auteurs, ce qui est facile pour les majeurs et difficile pour les mineurs. Deuxièmement, c'est facile pour les maghrébins, beaucoup plus difficile pour les africains chrétiens, qui ont des prénoms mineurs, qui ont des prénoms... Et je ne vous parle pas de la situation paradoxale des Antillais et des Réunionnais, eux parfaitement nationaux, mais qui n'ont pas la couleur, entre guillemets, acceptable par une partie, certes minoritaire, mais réelle, de la population. Donc, grosso modo, on n'en sait pas grand-chose. Mais on a un outil merveilleux qui s'appelle l'histoire. L'histoire nous a démontré qu'il s'était produit avec les Irlandais aux États-Unis, les Polonais dans le nord de la France, les Italiens dans le sud-est de la France, les Espagnols dans le sud-ouest de la France, toute une série d'épisodes précédents où la presse nationale ou locale reprend à peu près ce qui se dit aujourd'hui des Maghrébins ou des Africains en changeant simplement l'origine. Alors, les Polonais étaient blonds aux yeux bleus, certes ils abusaient un peu de la vodka, et donc ils mettaient le nord de la France à feu et à sang, ils violaient les femmes par centaines, il y avait des